One Piece est de retour, non pas en animé, mais bien en chair et en os sur Netflix, ce qui soulève tout un tas d'interrogations pour la suite des événements. Salut à tous, c'est Vin sur Plottime et on se retrouve une nouvelle fois pour vous parler de la série One Piece, non pas en dessin animé, mais bien en série Netflix, avec des acteurs en chair et en os, la fameuse série américano-anglo-japonaise développée par Matt Owens ainsi que Steven Maeda, diffusé depuis le 31 août 2023 sur Netflix. Vous le savez, je le sais, nous le savons, voilà, il s'agit d'une adaptation live-action du manga One Piece d'Eiichiro Oda, apparemment l'une des séries les plus chères de la plateforme avec pas moins de 18 millions de dollars de budget par épisode, à savoir que j'ai déjà fait une vidéo sur la première saison, donc je ne vais pas me répéter ici, et je vous recommande tout particulièrement celle-ci qui a beaucoup moins marché, mais c'est pourtant celle qui me paraît la plus pertinente dans la bonne continuité de ma première vidéo. Car j'explique ce à quoi aurait dû ressembler la série, en tout cas selon une vision purement personnelle. Parce que oui, l'existence de ce live action m'a prouvé deux choses. La première, les gens ne jugent une série qu'en fonction du premier et du dernier épisode. Et ça, Netflix l'a bien compris et en joue beaucoup sur sa plateforme. Et coup de poker, la série One Piece 2023 brille surtout avec son premier et son dernier épisode par sa qualité d'adaptation, de rythme et de casting. Mais personnellement, je trouve que pour ce qu'il y a entre les deux, il y a quand même une belle charge de défauts, entre des arcs importants bâclés comme celui d'Usopp, ou même des faux raccords à n'en plus compter. La deuxième chose, les gens s'en cognent totalement de la forme, mais à un niveau abyssal. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il m'a fallu beaucoup de temps sur ma chaîne pour m'en rendre compte. Ce qui importe au consommateur moyen, c'est de savoir si oui ou non, ça ressemble vaguement au manga sur le fond. Voilà, et tout le reste, on s'en tape. La réal, les costumes, la photo, le montage, le consommateur moyen s'en tape. Le simple fait d'avoir adapté ce manga très copieux en quelques épisodes de live action Netflix était suffisant, et on ne peut d'ailleurs que remercier l'implication de l'auteur d'origine sur le projet. Bref, One Piece de Netflix m'a laissé quand même très perplexe, car j'ai eu beaucoup de mal à m'y retrouver parmi ces critiques totalement, mais totalement dithyrambiques, je n'ai jamais vu ça de ma vie, voire carrément lunaire, jusqu'à qualifier la série de miracle. Vraiment? C'est dingue, hein, c'est les gens n'ont aucune exigence. Enfin, je parle vraiment du consommateur moyen qui, voilà, regarde occasionnellement des séries. Et c'est là que je me dis, mais tu m'étonnes qu'une série du type A Knight of the Seven Kingdoms buzz. Parce que là, les gens ont perdu l'habitude de voir des shows de très bonne qualité. Mais bref, on s'égare. Parce que cette série One Piece, je trouve que cinématographiquement parlant, j'ai vu toutes les patterns du produit très amateur que Netflix nous pond par dizaines chaque année, à la différence qu'ici, il y a un plus gros budget. Mais cela n'empêche que j'étais extrêmement curieux de voir à quoi pouvait bien ressembler la saison 2, car j'ai espoir de voir beaucoup de défauts corrigés après 2 ans d'attente. Et j'ai bien l'intention de vous en parler. Mais en dehors de ça, vous savez ce qui est fascinant avec One Piece? À partir du moment où ta tête apparaît sur un avis de recherche, t'es foutu. Tout le monde connaît ton nom, tout le monde sait à quoi tu ressembles, et surtout, tout le monde peut te retrouver. Alors certes, dans la vraie vie, on n'a pas la Marie notre housse, par contre, on a autre chose d'aussi flippant, les courtiers en données. Ce sont des entreprises qui récupèrent et vendent nos informations personnelles, adresses, numéros de téléphone, email, parfois même des infos financières ou de santé. Et le pire, c'est que ces données circulent en permanence. Et c'est exactement pour ça que je bosse toujours avec Inconi. Inconi agit en votre nom pour contacter directement des centaines de courtiers en données et leur demander légalement la suppression de vos informations, notamment grâce au RGPD en Europe. Au lieu de passer des dizaines d'heures à écrire des demandes manuelles, tout est automatisé. De mon côté, j'ai pu voir combien de demandes avaient été envoyées et combien de bases de données avaient supprimé mes infos. Et ce qui est très important à retenir, c'est qu'ils refont régulièrement des demandes parce que les données peuvent réapparaître. Ils proposent aussi les suppressions personnalisées. Si vous trouvez un site précis où vos infos sont exposées, vous pouvez leur envoyer le lien et ils s'en occupent pour vous. En termes plus clairs,
monosyllabiques,
ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Si vous souhaitez reprendre le contrôle de vos données personnelles, vous avez moins 60% sur l'abonnement annuel en passant par mon lien dispo en description ainsi qu'en commentaire épinglé, inconi.com/plottime ou en utilisant simplement mon code PLOTTIME. C'est satisfait, garanti, remboursé pendant 30 jours, donc vous pouvez tester sans risque. Sur ce, retournons sur notre navire. Vu Luffy et son équipage sont toujours en direction de la mythique Grand Line, cette routine maritime aussi fascinante que périlleuse. Sur ces eaux imprévisibles, en quête du trésor ultime, ils feront escale sur des îles hors du commun et croiseront la route de nombreux adversaires inédits. Ah, qu'est-ce que j'ai eu du mal à re-rentrer dans cette série, ne serait-ce qu'en voyant la tronche de tous ces Instagrammeurs en cosplay de One Piece qui se la pètent tous autant les uns que les autres. Je sais pas pourquoi, mais il n'y a que Luffy que je trouve vraiment cool dans cette série, enfin physiquement en tout cas, parce que l'acteur est en surjeu total, bien que ce ne soit pas dérangeant pour une série aussi bizarre visuellement. Nous sommes donc repartis pour une très longue fournée de 8 épisodes, 8 longs épisodes de plus d'une heure à chaque fois. Je pense que Netflix devrait reprendre l'habitude de faire des séries plus courtes, des formats courts, genre de 30 à 40 minutes par épisode, quitte à rallonger, augmenter la taille des saisons. Voilà, passer de 8 à 16 épisodes. Je trouve que ce format se prêterait mieux à One Piece. Et de ce que j'ai vu dans cette saison 2, j'ai noté, c'est l'anti-Superman de James Gunn. Je m'explique. Superman de James Gunn, visuellement, pour moi, c'était pas mon truc. Je me suis dit, clairement, ça ne j'accroche pas. Je n'arrive pas à rentrer dedans, mais nous allons voir ce qu'il en est pour le reste. Voilà, l'écriture, l'adaptation, le rythme. Malheureusement, rien de tout ça n'a suivi. Je trouve le rythme complètement effréné, catastrophique. Je n'ai pas du tout reconnu le style Superman. Malgré cet aspect un peu plus comics, ça n'a pas marché sur moi. Et One Piece saison 2, c'est l'inverse total. Alors, visuellement, c'est toujours pareil. Je n'aime pas. Je trouve ce visuel horrible, ce côté nanardesque, presque grotesque. C'est ce côté cosplay, voilà, c'est criard. Ça te vomit aux yeux, ça te vomit à l'écran. Mais voilà, j'ai fait mon deuil, j'ai accepté que le visuel n'était pas pour moi, c'était pas mon truc. Là, je me suis dit, voyons voir ce qu'il en est plutôt du reste, du fond, voilà, de l'adaptation encore une fois. Qu'est-ce qu'il pouvait faire avec cette saison 2? Et là, c'est ce que j'ai appelé l'anti-Superman de James Gunn. C'est un sans faute en fait. En termes d'adaptation, en termes de rythme, c'est un sans faute. Ils ont réussi à tout compiler parfaitement, on est presque sur un rythme d'un tome par épisode, ça marche tellement bien. J'ai trouvé cette seconde saison clairement au-dessus par rapport à la première. Pour moi, l'épisode 1 et l'épisode 8 de la première saison étaient parfaits en termes de rythme et de fidélité au manga, mais après tout ce qu'il y a au milieu, pour moi, c'était pas bon. Tu sentais le manque de budget, le problème de rythme, arc narratif peu développé par rapport au manga. Il y avait un vrai problème. Et bien là, imaginez, dans cette saison 2, qu'on prend le premier et le dernier épisode de la saison 1 et qu'on le multiplie par 8. Enfin, en gros, chaque épisode de cette nouvelle saison est aussi maîtrisé que ce que je vous ai décrit du premier et du dernier épisode de la première saison. Je ne sais pas si je suis clair. Mais tout ça pour dire qu'il y a une véritable maîtrise dans ce rythme du début à la fin. C'est exceptionnel et ça ne fait que monter crescendo. Quand on arrive vers la fin, ça devient de mieux en mieux. Et c'est, enfin, on va développer. Donc, en termes d'adaptation pure, c'est au-dessus de la première saison, avec du plus et du moins. On retrouve les scènes les plus importantes pour compléter les arcs narratifs des personnages et les scènes les plus anecdotiques sont mises de côté. Et à raison. Je crois qu'on ne voit pas les gros lapins, par exemple. On ne voit pas non plus le canard. Je sais plus comment il s'appelle, là, le canard de Vivi. On le voit pas. Est-ce que c'était important? Je ne pense pas. Résultat, après le visionnage du premier épisode, on se fait pas chier. Le rythme est parfait, ça va ni trop vite ni trop lentement, et j'ai pas eu l'impression de voir le manga se faire speedrunner. Voilà, c'est encore un autre bon point. Par exemple, les arcs qui est plus copieux comme celui des géants, qui n'est pourtant pas celui qui me passionne le plus, mais voilà, il a fallu de simplement 2 épisodes pour arriver à bout. C'était parfait. Voilà, c'était parfait, c'était épique, extrêmement épique. Vraiment, ils n'ont pas eu froid aux yeux. C'est beaucoup plus généreux que la première saison qui était tout le temps à l'intérieur. C'était pénible. Là, c'est beaucoup plus en extérieur. C'est de la vraie aventure. C'est une vraie série d'aventures. C'est gourmand. Voilà, cette saison est gourmande. Si vous avez des enfants, bah, je pense que c'est vraiment parfait. Ils ont compris quels ont été les moments du manga qu'on pouvait considérer comme du remplissage. Voilà. Ils ont réussi à saisir ces moments-là. Ils ont réussi à garder les moments les plus importants pour en faire un épisode de série standard. Et ça marche. Pour le reste, je vais décrire ce que j'ai vu de façon un petit peu fouillie, parce qu'il se passe tellement de choses, forcément. Si vous connaissez le manga, même l'animé, vous savez que, enfin, pour certains, c'est quasiment inadaptable. Et bien là, on nous a prouvé le contraire. Ce que je vais décrire, ça va être un petit peu fouillis, donc vous m'excuserez. J'ai déjà une première mention pour le personnage de Soro avec son choix d'épée, qui est un de mes passages préférés dans le manga, et c'est... Voilà. Encore une fois, c'est parfait. C'est comme dans le manga, mais avec la scène où il tend son bras, qu'il lâche l'épée, mais c'est... Voilà, c'est magique, c'est beaucoup mieux réalisé, on va un peu reparler de la forme tout à l'heure. Et c'est même à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me dire, admettons que je retire ma mauvaise foi. Voilà, je suis quelqu'un voilà, avec beaucoup de mauvaise foi, je pense que vous me connaissez. Si je retire un peu ma mauvaise foi, que j'oublie que ce que je regarde, c'est clairement de mauvais goût, que c'est pas pour moi, est-ce que je peux enfin admettre que j'apprécie quand même un peu ce que je vois? Oui, évidemment. J'avance dans la série et je n'arrive pas à ne pas aimer. C'est bien ça, hein. C'est, je trouve ça nettement au-dessus de la première saison, et je constate ça à chaque nouvel épisode. On revoit d'ailleurs Alvida, et j'ai l'impression que l'actrice a perdu un peu de poids pour interpréter sa seconde forme. C'est faux, c'est complètement faux. Elle porte juste un corset ultra serré, et la focale est tellement abusée qu'on ne voit quasiment aucune différence. Miss Wednesday et Mister 8 apparaissent enfin dans la série. Je déconne. Oui, effectivement, il faut rappeler quand même que Vivi vient d'un environnement chaud, donc ils ont décidé d'ajouter une ethnie à la famille royale. Allez, c'est pas grave. À côté, je trouve ça toujours aussi hallucinant de voir à quel point Sanji a été édulcoré dans cette version. Il n'est finalement plus que l'ombre de lui-même. Enfin, par exemple, on voit une scène où Nami est en soutif. Et pas un commentaire. Enfin, je sais pas, dans le manga, Sanji est un pervers, et dans cette série, c'est plus un dragueur. Voilà, c'est autre chose, c'est un autre personnage. Pourquoi pas ? On aime ou on n'aime pas. Plus tard, on aperçoit l'acteur David Asmalkian qui joue Mister 3. Un acteur qui avait joué dans la dernière version de Suicide Squad. Voilà, encore une fois, c'est un excellent choix d'acteur. Mais purée, voilà, comme le reste, son look, ça passe pas. Je déteste ce look. Enfin, tout l'aspect visuel, cosplay, déguisement, maquillage, je trouve ça ignoble possible. Ça fait tellement nanar. Mais au moins, la série a l'air de s'assumer en tant que telle. L'épisode sur les origines de Chopper. Waouh. Vraiment, c'est un grand waouh. C'est... Encore une fois, ça aussi, c'est un sans faute. C'est un passage que j'adore dans le manga, dans l'animé. C'est extrêmement émouvant. Waouh. Voilà, Encore une fois, ils ont compris que c'était le plus important. Enfin, ils ont compris que c'était l'un des passages les plus importants. Donc, ils ont fait un épisode entier sur ça. Voilà, on avait besoin d'un épisode entier. Voilà, encore une fois, bravo. C'est génial. L'épisode est génial, émouvant. Bien joué, même si, voilà, encore une fois, l'aspect visuel est grotesque au possible. Mais c'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Dr. Kurea est joué par Cathy Sagal. Le choix me paraissait très bon avant d'avoir vu la série. Là, je trouve qu'elle paraissait un petit peu trop douce et gentille. Il me semble qu'avant ça, c'était Jamie Lee Curtis qui avait été pensée pour interpréter ce rôle. Je pense que ça aurait beaucoup mieux collé, ne serait-ce que sur la face, parce que Cathy Sagal paraît presque beaucoup trop belle par rapport à son rôle, mais elle fait quand même le café. Et le final se conclut aussi bien que celui de la première saison, toujours avec ce rythme bien maîtrisé, ni trop lent, ni trop rapide, toujours en restant sur les rails du manga. S'il y a un point faible que je peux relever, c'est tout l'arc qui concerne la marine. Voilà, là je me suis fait chier. C'était les seuls moments où je commençais un petit peu à me faire chier, c'était pas vraiment nécessaire de montrer tout ça, c'était un peu anecdotique, on aurait très bien pu comprendre par quelques phrases, et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que j'ai adoré l'épisode 4 et 5, principalement pour ça, parce qu'on ne voit pas cet arc-là. Et une petite parenthèse avant de poursuivre sur le reste, il y a tout le monde qui... Enfin, je vois tout le monde a peur pour le personnage de Mr. 2, je crois, Bonclay, qui est un peu le personnage gay, enfin transgenre plutôt. Et tout le monde dit que, oh là là, mais sur Netflix, ça passera jamais. Moi, j'ai envie de leur dire pardon, ça passe pas. Parce que, oui, mais ça se moque un peu des personnages transgenres. Non, mais attends, Bonclay, là, c'est complètement ce que fait Netflix depuis 10 ans. Tu te balades sur la série The Witcher, paf, Bonclay est là.
Ouh, toutes les choses que je ferais avec cette belle bouche.
Tu te balades, je sais pas, sur Sex Education, paf, il est là. Il y a zéro caricature hein, dans ce que fait Netflix. Enfin, c'est à peine plus caricatural. Donc je vois pas en quoi ce personnage ne pourrait pas passer. Enfin, c'est ouvertement un personnage transgenre. LGBT, ça passe très bien. Concernant la forme, les scènes d'action sont déjà un peu plus originales que la première saison. Les chorégraphies sont bien plus intéressantes et la réal tente enfin de nouvelles choses. Le découpage fait bien moins amateur. On n'a plus les effets de fisheye dégueulasses sur les tronches qui étaient horribles. On n'a plus les plans cassés tous les 2 mètres. Non, ça y est, ça évolue. On a toute une scène de combat avec Zoro dans le bar. Cette scène n'est pas bonne, elle est excellente. Ben, je le dis, c'est excellent. Tu sens qu'ils ont ramené de vrais cascadeurs chevronnés pour tourner cette scène hyper longue. C'est un vrai régal. On a aussi toute une scène d'action avec la glissade au début de l'épisode 2. Voilà, c'est extrêmement réussi. En plus d'être très fidèle au manga, avec un bon travail de sound design, on se croirait presque dans une attraction. Beaucoup de défauts de la première saison ont été corrigés. Comme je vous l'ai dit, la première se déroulait énormément en intérieur. C'était vraiment décevant, on ne respirait jamais. Là voilà, on est beaucoup plus en extérieur, on respire, c'est de l'aventure. Dans la première saison, ça pouvait se comprendre vis-à-vis du budget. Mais cette suite a vraiment pour but de nous faire voyager, et ça marche. Le montage va parfois tenter de reproduire des effets manga avec des cadres à l'écran. Alors je suis pas hyper fan, ça fait un petit peu série Gulli pour enfants. Tout comme l'affiche de cette saison d'ailleurs. Pour rester sur le visuel, je suis toujours autant choqué par l'absence totale de travail au niveau de l'image. Ils ont pris le soin de faire une petite correction colorimétrique. Mais avec zéro étalonnage, zéro travail de lumière, c'est une série Gulli, une série M6. Fort heureusement, il y a des effets spéciaux plus nombreux et bien plus réussis. Et mention spéciale à Smoker qui propose des FX de fumée qui en jettent. La scène où on a Luffy qui attrape la gueule de Wapple, c'est trop bien fait. Comme d'hab, hein, exactement comme dans le manga. Et après, voilà. La saison en tout cas se veut généreuse. Donc forcément, ça ne peut pas marcher partout. Il y a des effets spéciaux sur certaines scènes bien plus tâcherons, mais disons que ça va avec le reste de l'aspect visuel parfois un peu grotesque. Les géants sont plutôt bien faits aussi. Voilà, pour une série qui compile autant de choses, je pense qu'ils ont fait leur maximum par rapport à la répartition de budget. D'ailleurs au passage, alors comme je dis à chaque fois, j'ai vu la série en VO, mais il m'arrive de temps en temps de switcher en VF pour checker, enfin, l'inspection des travaux, pour voir de comment ils ont fait pour traduire telle scène. Et j'ai remarqué que pour les géants, ils ont repris le tia 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 tia. Voilà, le rire complètement kitsch. Et une petite pensée au showrunner qui disait ne pas vouloir utiliser d'effets spéciaux pour Chopper. J'ai marqué sur mes notes LOUL. Enfin, c'est évidemment totalement impossible. Alors après, il y a juste la forme humaine où ils ont pris un déguisement. Dégueulasse, c'est dégueulasse, vraiment. Enfin, ça colle avec le reste, encore une fois, le côté nanar. Mais voilà, c'est assumé, ils le savent que c'est complètement ridicule, ce costume il fait ultra kitsch. Je suis sûr qu'il y a des cosplays qui pourraient même faire mieux. Mais voilà, encore une fois, c'est fait avec tellement de cœur cette série que bon, au bout d'un moment, quand on a accepté ça, ce visuel horrible, on passe outre et on comprend à quel point c'est vraiment fidèle et ça passe le temps. La musique, elle est toujours aussi cool. Bon, après, c'est pratiquement la même que celle de la saison précédente, avec quelques variantes en plus. C'était donc One Piece saison 2, et bah voilà, c'était clairement au-dessus de la première saison, en termes d'adaptation, mais également en termes de répartition budget. Comme je vais expliquer au début de ma vidéo, j'avais espoir de voir les défauts de la première saison être corrigés pour la saison 2, mais je ne m'attendais pas à ça. Voilà, je ne pensais pas que ça allait être à ce point. Ils ont vraiment corrigé tout ce qui m'énervait, à part l'aspect visuel. Bon voilà, j'ai fini par l'accepter. Mais tout ce qui est le fond, respect des personnages, élaboration du lore, voilà, construction des origines des personnages principaux, voilà, ils l'ont respecté, c'était le principal. Chaque épisode serrait quelque chose, il n'y en a pas un qui fait en trop. Non seulement je n'ai pas vu le temps passer, mais je n'avais absolument pas envie que ça se finisse. J'ai tellement envie de voir la saison 3 maintenant. Parce que oui, suite au succès phénoménal de la première saison, Netflix a commandé directement une double saison 2 semaines plus tard. Donc peut-être que la saison 3 arrivera bien plus vite que prévu. Mais alors quand? Je ne sais pas. Mais j'ai vraiment hâte de voir cette suite avec l'arrivée de Crocodile. Et j'insiste pour dire que c'est vraiment parfait à montrer à vos moutards si vous en avez. Exactement comme la série animée finalement. Parce qu'en plus c'est moins grossier. Enfin j'ai souvenir que la série animée était quand même pas mal grossière. Là c'est beaucoup plus édulcoré. Et pourtant c'est marrant parce que des fois ils ne retiennent pas vraiment leur coup pour la violence visuelle, la violence graphique. Mais ça reste assez neutre, voilà, c'est ni trop ni pas assez. Si vous souhaitez reprendre le contrôle sur vos données personnelles avec Inconi, vous avez moins 60% sur l'abonnement annuel en passant par mon lien dispo dans la description et en commentaire épinglé inconnie.com/plottime ou en utilisant mon code PLOTTIME. C'est garanti, satisfait, remboursé pendant 30 jours, donc vous pouvez tester sans risque. En tout cas, c'était juste mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais beaucoup avoir l'avis de ceux qui n'avaient pas aimé la première saison. Est-ce que vous avez regardé quand même la saison 2 et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Tous les autres également, vos commentaires m'intéressent. Voilà, j'y porterai comme d'habitude attention. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'était pas déjà fait. Likez la vidéo pour la booster dans l'algorithme. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux via les liens en description et en commentaire épinglé. On se laisse ici. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.